France Inter. L'écrivaine Catherine Cusset est drôle, lettrée, honnête. Et bien qu'elle dise souvent qu'elle est radine, elle en a même fait un livre, elle fait montre d'une grande générosité pour partager sa passion des grands textes. L'auteur de L'autre qu'on adorait, Le problème avec Jane, La haine de la famille, Un brillant avenir ou encore Une éducation catholique, fait paraître à 2 semaines d'intervalle l'essai personnel Ma vie avec Marcel Proust et une édition illustrée de son roman biographique Vie de David Hockney. Il sera donc question de vie ce soir et donc aussi d'amour et de mort. Et si tout se passe bien, vous ressortirez de l'émission sans avoir peur de lire la recherche, voire même avec le désir impérieux d'enfin, si ce n'est déjà fait, vous y plonger. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Catherine Cusset.
Bonsoir Eva Bester.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmée ?
Alors vraiment, juste tout à l'heure, je suis venue à la maison de la radio à vélo. C'est un trajet que je fais souvent. J'habite vers la Bastille et j'ai une mère qui habite à Boulogne. Donc je fais très souvent ce trajet à vélo et j'adore voir Paris. D'abord, j'adore le vélo. Mais voir Paris sur un vélo, la Seine, les monuments, on passe par les Invalides, on passe par l'église orthodoxe, la Tour Eiffel. C'est vraiment, Paris est vraiment une très, très, très belle ville.
Sauf l'avenue de Versailles que vous prenez aussi, j'imagine.
Oui, oui, je prends aussi l'avenue de Versailles, mais ça ne me dérange pas trop. Sur les 5 dernières minutes, je vais à toute allure. Voilà.
Vous êtes revenu en France après plus de 30 ans passés à New York. Vous êtes installé en Bretagne.
Non, je suis installée à Paris.
Ah bon, mais vous ne vous êtes jamais installée en Bretagne ?
Au retour, j'avais pas encore. Maintenant, je vous le dis, je suis vers la Bastille.
Et, d'accord.
Oui, je vais en Bretagne l'été.
Mais en 2021, vous n'étiez pas vers la pointe bretonne ?
Si, en 2021.
Parce que j'y étais avec des jumelles et c'est là que je vous ai vu.
Ah ben oui, c'est ça. Voilà, sur cette grande plage sauvage.
Voilà. Là, vous n'êtes qu'à Paris.
Pendant l'année, oui. Mm-hmm.
D'accord. Et pendant,
il était en
hors l'année, je ne sais pas ce que c'est, mais la mort peut-être.
C'est ça, exactement.
Vous avez publié, Catherine Cusset, la définition du bonheur.
Oui.
Vous savez, enfin vous le dites, il y a énormément de définitions. Et vous dites, c'est un sentiment qui vient de nous et se résume surtout à faire ce dont on a envie. Le bonheur ne s'impose pas. Est-ce que vous y arrivez à faire ce dont vous avez envie ?
Alors, j'ai la plupart du temps un sentiment de sisyphéen, hein, du rocher de Sisyphe. L'écriture, c'est ça. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Hein. Je peux pas le dire autrement. C'est tout ce que j'ai envie de faire. Mais mon Dieu, si c'est du bonheur, oui. Mais alors, c'est un bonheur. On rit pas tous les jours. Hein. Le nombre de fois où je me sens nulle, où j'ai l'impression vraiment de pousser ce rocher jusqu'en haut de la montagne, puis hop, il retombe. Le lendemain, il faut recommencer. Mais c'est un sentiment dont parle très très bien Marcel Proust, dont on parlera je pense tout à l'heure.
Oui, je pense qu'on va en parler, vous êtes forte. Dans le livre La définition du bonheur, vous disiez que les deux amis que vous mettez en scène sont vos deux moitiés.
Oui, j'ai une petite incitation sur le mot ami, parce que quand même elles ont un autre lien que l'amitié, ces deux femmes. Oui, enfin c'est un peu les deux moitiés de toute femme, hein. C'est la moitié passionnée, le désir d'aventure, le désir d'intensité, et de l'autre côté ce désir de stabilité. Donc c'est deux femmes qu'on voit aller vers la cinquantaine et la soixantaine, et avec deux formes de rapport au monde et à l'amour.
Est-ce que vous faites toujours partie du groupe d'écriture lancé à New York par la romancière Amanda Filipacchi ?
Eh ben oui, et figurez-vous que j'ai rendez-vous ce soir, là, à 22h après.
Mais pas à New York ?
Sur Zoom.
Sur Zoom.
C'est pratique, Zoom, quand même. C'est comme ça que je garde tous mes amis de New York. Je les vois très souvent.
Et alors, en quoi ça consiste, ce groupe d'écriture ?
Eh ben, on lit une vingtaine de pages de l'un d'entre nous, voilà, et on discute.
Vous vous donnez des consignes ?
Oui, on lit, on commente. Moi, je trouve ça très, très utile. Je leur avais d'ailleurs donné un petit bout du Proust. Je les ai testés, parce qu'a priori, on donne plutôt de la fiction. Et je leur ai donné un bout, et ils ont beaucoup aimé. Et j'étais contente, parce que c'était pas le genre de texte qu'ils lisaient d'habitude. Voilà.
Alors, un bout en anglais ou en français ?
Alors là, je ne sais pas si j'ose dire ça. Oui, en anglais, mais vous savez, aujourd'hui, j'utilise DeepL Pro, là. Et donc, je l'ai traduit comme ça, je relis après, et je leur ai donné à lire, effectivement, en anglais, parce qu'ils ne sont pas du tout francophones.
Vous pouvez le dire, parce que dans votre livre, on se rend compte que ChatGPT n'est pas prêt de remplacer les écrivains.
C'est ça, exactement.
Et je ne dis pas comment.
Et donc, DeepL ne va pas remplacer les traducteurs non plus.
La 20e heure. Eva Bester. Sur France Inter.
Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, À peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir encore dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire.
Le début de la recherche de Proust par Michel Bouquet. Catherine Cusset, vous publiez « Ma vie avec Marcel Proust » dans la collection « Ma vie avec » de Gallimard. Comment est né ce projet? Parce que j'ai lu que ça n'avait pas été facile pour vous. Je vous cite, puisque je ne me permettrai pas de juger, d'écrire sur quelqu'un qui vous est supérieur intellectuellement et artistiquement.
De toute façon, déjà, un livre... c'est vrai que c'est venu d'une demande et que j'ai beaucoup de mal, de façon générale, avec les demandes et les commandes. Donc c'est l'éditrice de la collection à l'époque, Charlotte Van Essen, qui m'avait demandé si je voulais participer à cette collection, et j'avais juste dit ma vie avec, si un jour j'écris un livre, ça serait sur Marcel Proust, parce que je l'avais lu en entier, j'avais lu la recherche en entier 3 fois, et que j'avais pris beaucoup de notes au moment où je l'ai relu, quand j'ai écrit L'autre qu'on adorait. J'avais beaucoup de choses, je sentais qu'il y avait quand même la possibilité d'un livre. Et puis je l'ai pas fait, parce que voilà, c'était un livre à l'horizon comme ça. Et puis une autre éditrice est arrivée, Sandrine Trainer, et elle a une poigne ferme. Et elle m'a dit, j'étais ravie de voir votre nom là sur une liste. Mais alors allez-vous écrire ce livre ou non? Parce qu'il faut quand même que vous sachiez que Marcel Proust est un auteur très désiré. Et là j'ai pensé, tant qu'il faut que je m'engage. Et j'ai un surmoi assez fort, donc une fois que je m'engage, eh bien voilà, j'ai fait le livre, quoi. J'ai fait le livre. Et j'étais très contente de l'avoir fait.
Et en parlant justement de doute et ou de sentiment de nullité, on apprend grâce à vous que Proust lui-même pensait qu'il n'avait aucun talent littéraire, qu'il voulait arrêter l'écriture, et il parlait de sa nullité intellectuelle.
Oui, c'est ça. On parle souvent de La recherche du temps perdu comme du livre de la vocation, hein, de l'écrivain de génie. Mais en fait, tout au long de la recherche, il dit qu'il n'arrive pas à écrire, qu'il est paresseux, qu'il procrastine. Et il parle aussi de sa nullité intellectuelle, qu'il n'est pas assez bon, qu'il n'est pas assez brillant. Et en plus de ça, il ne croit même pas à la valeur littérature. Et c'est vraiment ce doute qui m'intéresse énormément, hein, qui fait écho en moi, qui, je suis sûre, a fait écho chez mon personnage, donc dans L'autre qu'on adorait, mon ami qui lui n'a pas réussi à créer et qui s'est suicidé à 39 ans. Et ce doute, ce passage par le doute chez Proust est suivi de la certitude, d'une certitude d'autant plus forte qu'elle est passée par le doute.
Alors vous, vos 3 lectures intégrales de la recherche, c'était à 15 ans, à 20 ans et à 50 ans. Et donc la première, c'est parce que ça avait des échos avec votre histoire familiale et les sentiments que vous ne parveniez pas à nommer.
Oui, enfin la première, c'est tout simplement, j'étais une grande lectrice, hein, je lisais tout. Et puis je sais pas du tout comment, je sais simplement que c'est pas la bibliothécaire de mon lycée, parce qu'elle m'a dit Proust, c'est du bavardage de concierge.
Oui, c'est fou.
Donc c'est maman, certainement, qui m'a conseillé de lire Proust. Et c'était l'été de mes 15 ans. Et j'ai simplement adoré, parce que donc je raconte cette petite scène dans le roman, je suis sur la plage, je suis jeune fille au pair en Normandie, dans une famille absolument horrible, et je suis dans Sodome et Gomorre, donc j'en suis déjà au, je sais pas quel volume c'est, le 3e au moins, donc ça avance très vite, j'ai commencé pas très longtemps avant, et je suis tellement prise par la lecture que je fais pas attention à ce petit bébé de 18 mois que je garde et à qui j'ai malheureusement appris à marcher, et donc elle va trébucher, elle va tomber pendant que je suis en train de lire Sodome et Gomorre. Qu'est-ce que j'ai aimé à 15 ans chez Proust? Ce ne sont que des histoires d'amour, et ça commence par l'amour pour la mère. J'étais extrêmement proche de ma mère, je fais partie de ces filles voilà, qui ont un rapport fusionnel avec leur mère, beaucoup plus qu'avec leur père. Et dans le triangle que raconte Proust au début du roman, dans la scène du baiser, enfin de l'attente du baiser, de la mère, du père et de l'enfant, je me suis complètement retrouvée. Je pense qu'il n'y a pas le temps de lire, il faudrait aller le lire dans le livre, parce que je ne sais pas si j'ai le temps d'expliquer ce que je veux dire là. Et donc, le rapport à la mère, à la grand-mère, j'étais très très proche de mes grands-mères. L'amour du narrateur pour sa grand-mère est vraiment une chose absolument magnifique. Cet amour de la grand-mère en qui il trouve toujours un accueil. Et puis ensuite, chacun des amours, la recherche du temps perdu, c'était un amour après l'autre. Hein. L'amour du narrateur pour Gilberte, l'amour du narrateur pour Albertine, l'amour de Swann pour Odette, l'amour de Saint-Loup pour Rachel, l'amour de Charlus pour Morel, ça n'arrête pas les histoires d'amour.
Et alors chez vous non plus, mais est-ce que le flirt avec votre amie Chimena, est-ce que je le prononce bien ?
Chimena,
ouais. Avec un X, s'est produit juste avant votre première lecture de Proust ?
Alors, il faut quand même que je vous avoue quelque chose. Quand j'ai écrit ce livre, j'ai reconstitué. Excusez-moi, mais j'ai oublié ma lecture à 15 ans.
C'est vrai?
Donc j'ai relu. Je savais juste que j'avais adoré. Je me rappelais la scène de la jeune fille au père. Et le reste, je me suis dit, mais je me rappelle comment j'aimais à 15 ans. Je me rappelle très bien, par exemple, quand je suis tombée amoureuse de ma prof de français, que je passais mon temps à prendre mon vélo à 15 ans et que j'allais autour de son immeuble à Boulogne en me demandant où elle habitait.
Vous lui avez montré vos scarifications aussi.
Voilà, que je lui montrais les cicatrices sur mes bras, que je le nom de que si quelqu'un prononçait le nom de Geneviève, tout de suite j'en tremblais de bonheur. Et Proust décrit exactement ça avec Gilbert Swann et Swann. Il n'y avait pas de plus. Il voulait tout le temps prononcer le nom de Swann. Donc ce qu'il décrit, c'est exactement ce que je sentais à 15 ans.
Mais Proust est conscient du genre. Et vous, vous dites, il n'y en avait pas de genre. Et vous décrivez d'ailleurs vos amours pour les hommes, pour les femmes. Vous êtes très...
Bien sûr, mais je pense qu'il n'y a pas du tout de genre en amour. Les sentiments ne sont
pas
du tout genrés.
On aime des individus.
Le désir, la jalousie, la déception, enfin, on les éprouve exactement pareil. Je pense qu'on soit la souffrance de l'amour, la torture de l'attente, du silence, l'attente de la réponse. Exactement de la même façon qu'on soit un homme et une femme.
Votre deuxième lecture était plus sociétale et la troisième, c'est celle où vous avez été frappée du rapport de Proust à la judéité.
Oui, en fait, la troisième, c'est celle où je l'ai lu comme j'ai lu comme le roman de l'écriture. Mais à l'intérieur de cette lecture-là, en le relisant pour la troisième fois, je me suis beaucoup identifiée au personnage de Bloch, parce que Bloch, donc c'est cet ami du narrateur. Dont on sait dès le départ que ce garçon est peut-être brillant littérairement, mais il est vraiment pas très poli. Hein. Il arrive à un moment, il est invité à déjeuner chez le narrateur. Il arrive avec une heure de retard et trempé. Et au lieu de s'excuser, il dit vraiment qu'il n'utilise pas ses instruments tout à fait bourgeois que sont la montre et le parapluie. Et après, il dit au narrateur qu'il sait que sa tante est une femme légère, avec la cuisse légère, qui était une femme entretenue. Et donc, les parents du narrateur ne veulent plus recevoir Bloch. Et ce Bloch très grossier, très impoli, très vaniteux, un radin, je me suis retrouvée chez lui. Oui, c'est vrai, j'ai retrouvé mes défauts chez lui. Et je me suis avisée du fait qu'en effet, il est juif.
Car vous êtes gaffeuse aussi.
Ah oui, alors moi je suis Catherine Lagaffe, alors je suis extrêmement extrêmement gaffeuse. Je vous raconte comment une amie m'a offert ce petit porte-clés de bécassine en me disant voilà, je l'ai vu, j'ai su que c'était pour toi.
Et ça, quand on vous fait ça, vous êtes vexée?
Ah pas du tout.
Ça vous
pas
fait rire
tout. Ça me fait rire, parce que je crois que ce que j'aime le plus au monde, c'est qu'on me dise ma vérité, même si elle n'est pas très agréable. Bon... Parfois, je peux me vexer un peu hein, quand on me dit « Dis donc, tu n'en parles pas hein, !» Parce que je dis bah, « Évidemment, tu me dis de pas en parler, je vais pas en parler !» Mais c'est pas non plus complètement certes.
Oui, parce que vous dites que vous ne gardez pas les secrets.
Je suis bavarde et gaffeuse. Enfin, j'aurais pas à le dire à la radio, maintenant tout le monde va le savoir.
Mais vous le dites dans le
c'est
livre.
C'est épouvantable. mais de façon générale, s'il y a, je crois, un trait... ce que j'aime le plus chez les gens, et je crois que je l'ai chez moi et je l'ai dans mon écriture, et c'est également ça que j'ai tellement aimé chez Proust, c'est l'autodérision.
On va en parler. Pour revenir un tout petit peu sur la judéité, sujet que vous abordez dans une éducation catholique, enfin cette double culture que vous avez, et vous citez dans Ma vie avec Marcel Proust les vitupérations antisémites de Céline à l'égard de Proust. Et ce qui m'a choqué, ce n'est pas de lire son antisémitisme dont tout le monde a connaissance aujourd'hui, mais la vulgarité de son énonciation.
Oui, quand il parle d'un galimatia, franco-yiddish...
Même un mot qui commence par ENC.
Ah oui, ah oui, ah, oui. Parce qu'on ne peut pas le dire à la radio,
Vous aussi,
ça.
Dites-le.
Si, je ne sais plus comment il le dit exactement, mais 300 pages pour apprendre que tu tures en culte tatar, c'est un peu trop long, quoi, quelque chose comme ça.
Oui, mais il le répète plusieurs fois.
Voilà. C'est de la haine. Alors, ce qui quand même est très intéressant, c'est que, Proust, qui est juif par sa mère, hein, il appartient à la famille Veil, et pas par son père, ce qui est également mon cas, hein, je suis juif par ma mère et pas par mon père, donc il y avait un point de ressemblance, était ami avec des antisémites, les Daudet, avec Barrès, et qu'il est même allé voir Barrès en lisant sa biographie pour lui demander de l'aider à le faire élire à l'Académie française, mais jamais Barrès n'aurait aidé à élire un juif, quoi. Donc, il est dans une société, la société du début du siècle, où vraiment les Israélites, comme on les appelle, ne sont pas considérés comme des Français. Et on le sent énormément dans La recherche du temps perdu, hein, qui est quand même est un reflet forcément de l'époque. Donc c'est normal qu'on sente cet antisémitisme, qui ne veut pas du tout dire évidemment que Proust est antisémite. Mais j'ai quand même été frappée par ce personnage de Bloch qui s'oppose, qui par sa vulgarité, sa grossièreté, sa vanité et son gros nez s'oppose à Robert de Saint-Loup, qui est le français extrêmement poli, gracieux, élégant, avec un nez qui a la grâce des ailes de papillon, nous dit Proust. Hein, donc on a vraiment parfois l'impression de voir une sorte de pamphlet, enfin des clichés, des pamphlets... des pamphlets antisémites.
Heureusement, quand on dit aujourd'hui quel est l'un des plus grands écrivains français, on cite Proust en premier. Je reviens sur oui. Le fait que les Juifs n'étaient pas considérés comme des Français par les antisémites.
Alors c'est vrai que je me suis posé la question dans le livre de l'antisémitisme et ça m'a tourmentée parce que j'adore Proust et que quand même j'arrive pas à croire. Alors c'est chez Proust rien n'est ce qu'on croit qu'il est. Tout devient.
Tout est complexe.
Et c'est très voilà, c'est en permanence, c'est la vie, c'est un mouvement permanent, son œuvre. Tout bouge, tout change. Et il a beau donc opposer l'aristocrate Saint-Loup qui est tellement raffiné, élégant et ce grossier Bloch, à la fin il nous dit cette chose-là, que la politesse de quelqu'un comme Saint-Loup est en fait une entrave à la création. Et que quelqu'un de impoli et de grossier et de vaniteux comme Bloch a plus de chances de devenir un créateur. Donc vous voyez l'échelle de valeurs qui se retourne.
Oui,
et c'est tout le temps comme ça chez Proust, ça se retourne tout le temps.
On peut même se dire qu'il y a un certain désir de ressembler à Bloch dans cette affirmation, puisque Proust était tellement poli qu'il agaçait régulièrement les gens par sa politesse extravagante.
Non, je pense pas qu'il désirait ressembler à Bloch.
Non, mais je veux dire pour la liberté.
Mais en effet, ce qui est fascinant, c'est cette politesse.
Mettre moins de forme.
Cette politesse extrême de Proust, et que ce verbe qui a été créé par ses camarades au lycée Condorcet, proustifier. Hein, proustifier, ça voulait dire remercier avec des petits chichis, des petits une politesse vraiment excessive. Et alors moi, ça m'a intéressée parce que j'ai ma meilleure amie au lycée, qui était donc mon Rimena, dont je suis tombée amoureuse à 14 ans, avait aussi à plus tard inventé un mot par rapport à moi, qui était le catrinesque.
Et alors, le catrinesque... Pas la même chose.
Non, pas du tout pareil. Désignait une espèce de romantisme mièvre qui l'horripilait. Et voilà, donc ça a été un peu dur de me défendre contre ça. Et je me suis posé la question, et si quelqu'un avait dit devant Proust « Ah, le voilà qui proustifie encore », je pense qu'il aurait ri. Je pense pas qu'il se serait vexé.
Alors, ce moment où vous écrivez cette idée, moi je me suis interrogée parce que j'avais lu une biographie de Proust dans laquelle il semblait vraiment insupportable en amitié, c'est-à-dire toujours en train d'attendre des manifestations de tendresse, toujours en train de se vexer, de mal prendre les choses. Enfin, moi je l'avais trouvé un peu dur à vivre à distance et plus fréquentable dans les livres. Mais bon, on ne sait pas.
C'est possible.
Vous dites qu'il vous a servi de loupe, de vomitif, d'antidépresseur, de vitamine, d'amphétamine et de tisane. Tisane car il arrive qu'il vous ennuie.
Voilà, exactement. Oui, vous savez, ben Proust, il y a des gens qui n'arrivent pas. Enfin, voilà, on peut avoir du mal. C'est un peu un monument en France, Proust.
Oui, on a peur de ses subordonnés, on a peur de son verbe.
On a peur de voilà, c'est des phrases extrêmement longues. Il faut savoir qu'à son époque aussi, les phrases étaient tout aussi longues et que c'était pour certains, enfin, juste le rendait impossible à lire. C'est quand même aussi pour cette raison qu'il n'a pas été publié, que son œuvre a d'abord été refusée. Hein. C'est le lecteur, le directeur de la maison d'édition Ollendorf qui dit, écoutez, je suis peut-être complètement bouchée, mais j'arrive pas à comprendre qu'on passe 30 pages à raconter comment on se tourne et qu'on se retourne dans son lit sans réussir à s'endormir. Et là, Proust a eu un cri de colère, quoi. Il a réagi en disant, mais je n'arrive pas à croire que cet homme qui a eu entre ses mains un concentré de pensées morales, enfin, je ne sais plus quelle est la phrase, puisse avoir une réaction tellement stupide. Donc Proust n'est pas forcément facile à lire, et je pense qu'on peut pas le lire par extrait. En fait, je pense qu'on peut pas, bon, à part le baiser, qui est le baiser du soir, qui est un extrait magnifique, mais il faut vraiment entrer dans son œuvre. Il faut avoir du temps et il faut le lire avec plaisir. Si on n'a pas de plaisir, faut laisser tomber. Mais par contre, je pense que si on entre dedans, on est en contact avec une pensée vivante. Et c'est ça que j'essayais de dire dans mon livre, à quel point Proust est vivant, à quel point il est proche, à quel point il est là avec moi. J'ai l'impression d'un dialogue avec lui en permanence. Et une fois qu'on est dans ce dialogue, ben on n'a plus tellement envie de le quitter. Thank you.
Catherine Cusset, dans Ma vie avec Marcel Proust, vous dites que Proust ne décrit qu'une façon d'aimer, c'est la vôtre, puisque depuis l'enfance, vous ne cessez de tomber amoureuse et de souffrir d'amour. Et là, on entend La jeune fille et la mort de Schubert, interprétée par le Bouche Quartet. Et c'est un disque qui vous a été offert par un ancien amoureux, et vous l'avez écouté en boucle après la rupture. Et vous écrivez cette très jolie chose dans le livre: l'amour n'a rien à voir avec l'objet de l'amour lui-même, mais seulement avec nos angoisses, nos névroses d'enfant, ce qui nous est propre. L'amour n'est souvent rien d'autre que la peur de perdre. Qu'avez-vous peur de perdre ?
Alors, d'abord, c'est ma lecture de Proust à 15 ans. Je dis aussi qu'après, en amour, je me suis éloignée de Proust.
Oh non ! Mais vous dites que c'est un clinicien de l'amour, mais pas un romantique.
Ah oui, c'est un clinicien de l'amour. Et ça, c'est extraordinaire. Ce que dit Proust, c'est qu'en fait, l'amour, c'est un parasite. Une bactérie, en fait, qui se loge dans les corps. Vous savez, Proust est le fils d'un grand médecin et professeur de médecine, hein, qui s'occupait de très graves maladies contagieuses, du choléra, etc. Et donc, Proust parle finalement de l'amour presque en médecin. Et finalement, il n'y a rien qui puisse... On peut rien faire contre l'amour. Il n'y a pas de vaccin. Il n'y a pas de stratégie possible. Et c'est vrai. Hein, ce qu'il dit des vérités, mais qu'on les éprouve tous. Il y a un moment, les charmes d'une personne, finalement, comptent beaucoup moins en amour qu'une phrase comme « Non, ce soir, je ne serai pas libre. » Hein ?» Et qu'est-ce qu'il dit d'autre encore ? Ça y est, j'ai la mémoire qui me fait défaut. Pardon,
Je vous en prie, je viens à votre rescousse.
Oui, il faut que vous veniez.
D'accord. Et ben, écoutez, moi, j'ai été frappée par une anecdote. C'est qu'un jour, vous aviez le cœur brisé par une histoire d'amour et vous êtes enivré. Vous avez appelé des amis de vos parents. Ils vous ont quand même emmené voir Sonate d'automne de Bergman. C'est quand même fou.
Mais là aussi, vous voyez, il y a une phrase de Proust exactement pour ça. Et ce passage de Proust où il dit qu'on est là, on est tranquille, tout va bien. Et tout à coup, il suffit de ces mots « Elle ne viendra pas » pour que se déclenche la tempête. Une tempête intérieure à laquelle on est même pas sûr de pouvoir résister. Alors je le cite, hein, vous avez bien compris que je ne le cite pas. Hein, c'est
de mémoire.
La phrase est vraiment de mémoire. Et effectivement, c'est exactement ça. J'avais rendez-vous avec ce garçon à l'âge de 15 ans. Je n'attends que ça. Je me suis lavée, je me suis fait belle, je me suis enduite de lait aux chèvrefeuilles Yves Rocher, c'était ce que je portais à l'époque. Je mets ma plus belle robe, j'attends ce rendez-vous. Il appelle, et voilà, il a une rage de dents, je n'en crois rien. Hein, il doit filer chez le dentiste, je n'en crois rien. Je raccroche, je suis seule à la maison. Je vais prendre la bouteille de gin dans le placard de mon père, je ne buvais pas du tout d'alcool. Je remplis un verre entier de gin, je le bois en entier, ma tête se fait mettre bom, 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 un gong, et je vais m'asseoir sur la rambarde au 6e étage, les jambes à l'extérieur. Alors, j'ai eu un peu peur quand même, hein, j'ai hésité. Et ben, les amis de mes parents que j'ai appelés, Jean et Françoise, hein, je vous remercie, qui sont venus me chercher ce jour-là, qui m'ont emmené voir Sonate d'automne, ils m'ont sauvé.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Catherine Cusset, nous parlons avec vous des 3000 pages en 7 volumes publiés par Proust, dont vous aimez, j'ai promis qu'on y reviendrait, l'ironie, et vous le comparez à la fois à Molière et à Woody Allen.
Oui, parce qu'il est très drôle. Il est très drôle, comme Molière est très drôle et Woody Allen est très drôle.
Woody Allen, c'est plutôt de l'absurde.
Bah, c'est des situations, moi je sais pas, c'est juste que ça me fait éclater de rire. J'éclate de rire en voyant des films de Woody Allen, enfin, surtout dans les premiers. J'éclate de rire dans certaines pièces de Molière qui sont vraiment infiniment drôles. Et c'est du comique pour enfants, hein. Les enfants éclatent de rire. Et bah, vous avez ça chez Proust aussi.
Vous racontez qu'il a eu des fous rires avec Lucien Daudet, avec lequel il a aussi eu une histoire, révélée par Jean Lorrain, avec lequel Proust s'est battu en duel.
Alors, c'est incroyable cette histoire de duel. Parce qu'on en parle finalement, enfin voilà, on dit s'est battu en duel, mais moi tout à coup j'y pense, je me dis mais attends, mais c'est pas rien de se battre en duel quand même.
Je ne savais pas que c'était Jean Lorrain.
C'est incroyable, peu importe Jean Lorrain ou un autre d'ailleurs, mais
quand même.
Bah oui, non, mais j'imagine moi simplement Jean. Proust se levant à l'aube un matin, déjà, enfin je sais pas comment, se levant, enfin bon, il s'était pas couché quoi, j'imagine, prenant, enfin. Ses revolvers, mais il pouvait mourir. Mais c'est pas évident de faire une chose où on peut mourir.
Il y a eu quelques progrès sociaux quand même. On se bat plus en duel.
Non, mais c'est sûr. Et c'est un courage incroyable pour défendre quoi quand même l'honneur, hein. Donc sa réputation souillée par ce journaliste qui fait allusion à des relations, aux relations qu'il aurait avec Lucien Daudet.
Alors, dans ce livre, vous n'êtes pas tendre avec vous. On dirait qu'il y a presque une complaisance à souligner vos défauts. Vous êtes d'abord une grande pisseuse. Là, je vous cite, vous allez souvent
c'est pas un défaut,
aux toilettes.
D'être une grande pisseuse.
Non, c'est simplement pas pratique. Et d'ailleurs, Proust parle de ce genre de choses.
Voilà, c'est incroyable qu'il parle d'une dame pipi. Il faut voir que c'est ça, Proust. C'est très concret ce dont il parle. C'est des situations de la vie de tous les jours.
Oui. Et vous êtes radine. Vous avez d'ailleurs écrit Confession d'une radine. Et vous dites que vous aimeriez ne pas l'être. Et que la radinerie, pourtant, coupe votre désir chez l'autre. Alors, comment, où vous en êtes aujourd'hui de cela ?
Voilà, il faut que je parle de la radinerie. C'est vrai que j'en reparle un petit peu dans ma vie avec Marcel Proust. J'ai hésité, d'ailleurs, à remettre une couche, si je puis dire. Mais c'est vrai que j'étais... Vous savez, Proust, c'est quelqu'un qui faisait de magnifiques cadeaux. Énormes, bon, des fleurs. J'ai découvert qu'il envoyait des fleurs absolument magnifiques à une femme qui était quand même l'épouse d'un des membres du jury Goncourt. Donc ça, c'était assez bien vu comme cadeau. Mais je pense pas qu'il l'a fait de façon intéressée. Il donnait des pourboires énormes, il a offert des cadeaux à la fin à Alfred Agostinoli dont il était amoureux, même un avion quand même, hein. C'est pas des petits cadeaux. Voilà. Et donc je suis frappée par cette générosité de Proust, alors qu'il décrit au contraire le personnage de Bloch comme le radin. Et c'est vrai que dans Confession d'une radine, que j'ai publié en 2003 mais que j'avais écrit dans les années 90, à une époque où je vivais à Prague et où j'avais dans la Prague, juste après la chute du mur, où il n'y avait absolument rien à acheter, rien à dépenser, et où je m'étais aperçue que j'avais encore des réflexes d'économie. Par exemple, un taxi pour rentrer chez moi, ça coûtait 50 centimes, et parfois je préférais marcher trois quarts d'heure. Je me suis dit, c'est quand même étrange. C'est donc pas une question de l'argent, c'est autre chose qu'il y a derrière la radinerie. C'est un rapport à l'autre, c'est quelque chose, je me suis interrogée dessus. Voilà. Et donc, quand j'ai publié ce livre, je l'ai publié parce qu'il était drôle, et c'est vrai que j'ai pas hésité à me prendre pour cible et à m'offrir comme cible au lecteur. Et j'en parle parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose que fait Proust. En tout cas, tout ce que je veux dire là, c'est que en épigraphe de Confession d'une radine, j'ai une longue citation de Proust où il s'agit du père de Bloch, de son ami Bloch. Et de cette façon qu'il a de servir du champagne, hein, entre guillemets, dans une carafe, dans une belle carafe. En fait, c'est du mousseux, nous dit le narrateur de Proust, c'est pas du tout du champagne. Ou d'inviter les amis de son fils à l'opéra, où il explique qu'il a pris des sièges d'orchestre parce que les loges étaient toutes réservées, sans même s'apercevoir que, en fait, les loges, elles sont toutes vides. Et Proust dit, sans s'apercevoir, par l'intervention divine de son défaut, c'est-à-dire de ce qui est invisible pour lui, mais visible pour les autres. Je trouve que Proust, c'est ça. À l'intérieur d'une phrase, entre deux virgules, vous avez une pensée d'une profondeur absolument incroyable.
Et parfois visible pour soi, puisque Catherine Cusset, vous vous décrivez dans ce livre comme indiscrète, ignorante, malpolie, vaniteuse, gaffeuse. Est-ce que vous n'en rajoutez pas un peu? Et surtout, avez-vous envie d'être aimée?
Ah mais non, mais j'ai beaucoup d'amis, comme je dis. Vous savez, j'ai dit quand même, quand les antisémites qui disent « mais comment ça, j'ai des amis juifs ?» Moi, j'ai beaucoup d'amis quand même, hein, il faut bien dire. J'ai énormément d'amis.
Mais est-ce que vous tenez à être aimée? C'est ça qui m'intéresse.
Ah oui, je n'écris que pour être aimée. Mais que pour être aimée.
Mais alors, pourquoi cette lucidité implacable?
Je vous envoyer des chocolats, je vous le dis tout de suite.
Mais ça va être des chocolats bas de gamme.
Ah non, mais pas du tout, plus maintenant, c'est fini. Non, mais vous savez, la dernière fois que j'ai offert des chocolats bas de gamme, je vais vous le raconter, parce que ça, c'est à propos de cette émission. Eh bien, figurez-vous, c'est à David Hockney.
C'est pas vrai.
Si,
ben on
mais
va en parler
horrible.
Dans quelques minutes.
Je peux vous le raconter, ça, ou j'ai pas le
temps ? On n'a pas trop le temps, mais si non, vous y tenez
dommage.
Vraiment, on peut, mais on parlera un peu moins du livre.
Tant pis, j'expliquerai pourquoi, mais c'est pas grave.
Alors, et bon, je voulais que vous lisiez les 10 commandements issus de la Bible qui est Proust pour vous,
mais
je suis pas sûre qu'on ait le temps, alors je le mets en bonus en pliant ma feuille très bruyamment à côté du micro, chers auditeurs, vous l'entendez, ce sont... Voilà ce qui se passe dans les coulisses. Je la mets de côté et on verra à la fin si on a le temps de lire ces commandements. En attendant, je lance votre choix musical et ensuite, David Hockney. Votre choix musical qu'on entend, Catherine Cusset, Nina Simone, And God Know I Got Life.
Voilà, pour moi, ça, cette chanson incarne la puissance de la vie. Et quand je réfléchissais, qu'est-ce que je peux choisir comme chanson pour aller avec Proust? Eh bien voilà, pour moi, Proust aussi incarne la puissance de la vie. Donc il y a une équivalence pour moi entre Nina Simone et Proust.
Et voici maintenant, en parlant de vie, la vie de David Hockney, votre ouvrage paru en 2018 qui ressort en édition illustrée, qui est ressorti en édition illustrée. Non,
il sort.
Oui, bien sûr, excusez-moi, je ne sais plus quel mois on est. Mais nous sommes toujours au 19e siècle, rassurez-moi.
Absolument, Eva. Absolument.
Donc, c'est chez Gallimard et c'est à l'occasion de l'exposition consacrée à David Hockney qui aura lieu à partir du 9 avril à la Fondation Louis Vuitton. Et vous avez mis le livre à jour, vous avez écrit une postface. Et ce qui est amusant, c'est que vous avez rencontré David Hockney, mais après avoir écrit ce livre sur lui.
Oui, pas avant, parce que je craignais trop la censure. Je voulais être absolument libre d'écrire un récit de vie, la façon dont, voilà, un récit où c'était mon interprétation de sa vie à partir de tout ce que j'avais lu. Et je ne pouvais pas avoir le regard de quelqu'un d'autre qui venait brouiller ça, en particulier de David Hockney.
Vous aviez peur aussi des avocats?
Et j'ai eu très peur après, parce que c'est quand même, mon livre est très intime. Donc effectivement, je raconte dans ma postface des rencontres, dont celle où je lui ai apporté ces chocolats dont je parlais tout à l'heure. Chocolat bon marché, parce qu'en fait, pour moi, il y a chez Hockney une âme d'enfant. Et je marchais dans les rues de Honfleur, donc avant d'aller le voir dans sa maison en Normandie. Et je vois en passant ces chocolats qui étaient des petits animaux avec des becs jaunes. Et j'ai pensé, ah, il va aimer ça. Et malheureusement, c'était un chocolatier bon marché. Mais moi, j'aimais bien les petits animaux, l'idée de chocolat enfantin. Et quand je lui ai apporté, la première chose qu'il a fait, ça a été de regarder la marque. Voilà. Et vous avez pense que David Hockney aime les bons chocolats.
C'est un homme de goût. Vous avez eu aussi un déjeuner proustien avec lui.
Au Grand Hôtel de Cabourg, invité par son galeriste. Et c'était absolument extraordinaire de manger le menu proustien avec David Hockney. C'était un grand moment.
Vous l'avez rencontré la première fois, c'était dans sa galerie new-yorkaise.
Oui.
Il vous a dit « You got me ».
Oui, il me l'a écrit après, c'est-à-dire qu'il me l'a écrit quand il a lu le livre en anglais, qui a paru l'année d'après, parce qu'il lit pas le français. Et en effet, j'avais extrêmement peur. Il est très drôle, voyez. On parlait de l'autodérision à propos de Proust. En fait, ce que je trouve chez Hockney et que je trouve chez Proust et que j'espère avoir aussi dans mes livres, c'est l'autodérision. Et quand j'ai envoyé le livre en anglais à Hockney, il m'a écrit un message la semaine d'après qui disait Dear Catherine, I'm not very litigious, I'm not fond of lawyers, I'm not going to sue you. Je ne suis pas procédurier, je n'aime pas les avocats, je ne vais pas vous faire un procès. Et je lis cette première ligne, je me dis Oh non ! Évidemment, en fait, il se moquait parce qu'il savait que j'avais peur du procès. Donc c'était très drôle et en fait, il avait vraiment aimé le livre.
Vous avez inventé les sentiments, les pensées, les dialogues. Comment avez-vous imaginé sa personnalité en vous documentant ?
Alors, je me suis énormément documentée, mais j'ai écrit le livre parce que j'ai eu une intuition en lisant son autobiographie. Enfin, c'est un enregistrement qu'il avait fait à l'âge de 40 ans où il parlait de sa jeunesse. Et en l'écoutant raconter plein d'anecdotes, d'histoires de sa jeunesse, j'ai senti l'homme. Et je l'ai écrit comme j'ai écrit mon roman L'autre qu'on adorait, en essayant de rentrer dans la tête du personnage.
D'ailleurs, l'ami dont vous parlez, qui s'est suicidé dans L'autre qu'on adorait et qui apparaît dans Ma vie avec Proust, écoutait Nina Simone.
C'était exactement sa chanteuse préférée, absolument. Donc tout est lié. Vous savez, tout est lié. Tout est lié chez David Hockney aussi. Ses peintures sont pleines, il y a quelque chose d'extrêmement lié. Et chez Proust, ce que j'aime tant chez Proust, c'est que c'est d'une... Tout est lié, tout a du sens. Ce qu'il fait, Proust, il le dit, d'ailleurs, c'est de la psychologie dans le temps. Et donc, c'est essentiel, la notion de temps. Et je pense que, d'ailleurs, mon livre, Ma vie avec Marcel Proust, est aussi un livre dans lequel je questionne mon rapport à Proust à travers le temps. Et j'aime ce qui devient, j'aime le temps, en fait. Voilà, j'aime ce que fait le temps.
Écoutez, c'est assez rare pour être admiré, en tout cas. à l'inverse de Proust, David Hockney n'arrive pas à peindre ses parents. Enfin, il met du temps à le faire. C'est presque psychanalytique.
Ah bah, Proust aussi met du temps. Hein.
Oui, mais je veux dire, c'est écrit. Oui. Ça a l'air, c'est le mot italien, la sprezzatura. Il y a eu de la sueur derrière, mais on ne le sait pas. On voit seulement l'impression de facilité.
Oui, mais je ne dirais pas à l'inverse, simplement parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, Proust n'arrête pas de parler de ses doutes, de sa nullité, de son incapacité à écrire. Et ce qui m'a intéressé chez David Hockney, c'est un peintre qui se renouvelle énormément. Et ça a l'air tout simple quand on est un historien de l'art et qu'on le regarde de l'extérieur. Mais si tout à coup, on essaye de se mettre à sa place au moment où il peint, il y a des échecs. Il y a des moments d'extrême difficulté au moment où il peint mes parents, il n'y arrive absolument pas. Et ensuite, quand il essaye de représenter le temps dans la peinture, là aussi, il va avoir un sentiment d'échec total et il va demander à son assistant de jeter un tableau sur lequel il travaille depuis 2 ans.
Il est passé de la Grande-Bretagne aux États-Unis. Vous avez vécu très longtemps aux États-Unis et vous dites que le lieu modifie ce que vous êtes en train d'écrire. Vous avez écrit, la plupart de vos romans se passent entre la France et les États-Unis. Il y en a un que vous avez écrit à Prague.
Oui, enfin un petit peu, le problème avec Jeanne, un petit peu. Oui, et Confession d'une radine, j'ai écrit à Prague, en effet.
J'ai dit Jane tout à l'heure, pardonnez-moi.
Oui, non, Jane, vous avez raison, c'est moi qui me trompe.
Ah bon? Vous dites que le lieu, on le porte en soi.
Oui, ben, par exemple, là maintenant je vis à Paris et il est assez probable que dans les années qui viennent, j'écrive sur New York. Parce que un lieu, on le mûrit, de même que Proust, le livre que j'ai écrit sur Proust est sorti, j'ai une familiarité avec Proust qui remonte à mes 15 ans. J'ai lu à 15 ans, je l'ai lu à 20 ans, je l'ai lu à 50 ans. Les choses maturent, on revient à la notion de temps, elles mûrissent. Et New York, où j'ai vécu 30 ans de ma vie, où j'ai écrit presque tous mes livres, je suis sûre, un jour, je vais parler dans mes livres vraiment de ma vie à New York.
Vous faites de l'autofiction, vous dites que quand vous en faites, vous n'inventez pas. Et vous dites aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'écrivains qui soient aussi crus que Proust. Et je voulais savoir, vous, comment vous situez votre pudeur? Est-ce que ça vous arrive de vous censurer?
Peut-être plus maintenant, avec l'âge, mais j'ai quand même écrit un livre qui s'appelle Jouir, qui est extrêmement cru, hein, ou dans lequel il y a des je suis d'une honnêteté totale, et en particulier, je parle de mes fantasmes, et je me rappelle qu'à un moment, une amie américaine qui l'avait lu quand le livre a paru en 97 m'avait dit, mais enfin, comment peux-tu avoir des fantasmes d'homme? Et c'est là où il faut quand même aujourd'hui, dans une époque de political correctness, hein, de être capable de faire la différence entre le fantasme et la réalité. Et Proust, c'est absolument, enfin c'est incroyable quand il parle de Charlus, du baron de Charlus, ce personnage du baron de Charlus, il le sait d'ailleurs, qu'il crée un personnage extrêmement nouveau dans la littérature. Et nouveau pourquoi? Alors il met en scène cet homosexuel vieillissant, amoureux d'hommes virils, et surtout cette scène dans Le Temps Retrouvé, hein, où il montre le narrateur qui entre dans une maison où il entend des hurlements, il pense qu'on commet un crime, et c'est en fait le baron de Charlus qui est attaché avec des chaînes, qui se fait fouetter à tour de bras, et qui n'est pas content parce qu'on ne le fouette pas assez fort. Et Proust a cette phrase absolument incroyable, où il dit qu'en fait, ce rêve du baron de Charlus est aussi poétique que le rêve d'aller à Venise pour quelqu'un d'autre. Et donc il y a un respect total chez lui du désir en permanence, un respect du désir du moment que le désir n'atteint pas à l'intégrité de l'autre. Et je trouve que la tolérance de Proust est sans doute la plus belle leçon qu'il a à nous donner aujourd'hui, son extrême tolérance.
Catherine Cusset, vous avez écrit un essai sur les romanciers libertins. Quand vous écrivez, c'est ce que vous dites dans une interview, vous ne pensez pas aux conséquences. Moi, quand j'ai lu cette phrase, j'ai immédiatement pensé à Sade, auquel vous avez consacré votre thèse, puisque quand on lit sa correspondance, on se rend compte que vraiment les conséquences, c'est la dernière chose qui le préoccupe. Est-ce que vous auriez des recommandations de livres du XVIIIe siècle à lire pour les auditeurs?
Oui, bien sûr. Bon, Liaison dangereuse, qui est un chef-d'œuvre absolu. Récemment, une journaliste, Virginie Bloch-Lenné, m'a interviewée pour savoir s'il y avait dedans une scène qui était une scène de viol. Alors, vous la lisez, c'est vraiment une scène de viol, pas brutale, hein, mais par la contrainte, par la menace. Et à la fin, bon, bah, la morale est sauve, hein, parce que les libertins perdent à la fin. Mais ce livre est d'une intelligence, d'une brillance extraordinaire. Et puis, une toute petite histoire qui s'appelle Point de lendemain de Vivant Denon, qui est absolument remarquable sur le plaisir physique, sur l'amour, voilà.
Et alors, une dernière recommandation dans les quelques secondes qui nous restent. Il est question, dans votre roman Un brillant avenir, des poèmes de Mihai Eminescu.
Oui.
par où commencer?
Ah là là, oh non, mais c'est pas gentil de me faire ça. Puisque... J'ai écrit le livre il y a 20 ans.
Oui, mais j'aime bien faire découvrir des auteurs peu connus.
Ah oui, c'est vrai, mais non, mais je peux pas vous répondre. Je l'ai lu à l'époque pour écrire la.
Bon, d'accord,
et
bien, écoutez,
il y a trop longtemps.
Il est roumain, il est talentueux.
Allez voir Suzanne Valadon à Beaubourg. Voilà, ça vous va si je dis ça?
Ça va, mais la plupart des auditeurs ne sont pas à Paris.
Ah, d'accord. D'accord, d'accord.
Mais c'est pas grave, j'accepte. Un livre, alors, Dostoïevski, c'est votre autre écrivain préféré, un titre.
Les possédés.
Les possédés
Les démons, je sais pas, se traduit les démons ou les possédés.
Vendus.
Mais en fait, je veux relire Dostoïevski, je l'ai pas relu depuis très longtemps.
Eh bien, il veut vous relire aussi. Merci beaucoup, Catherine Cusset.
Merci, Eva Bester. Merci, merci.
Ma vie avec Marcel Proust est parue le 20 mars chez Gallimard et l'édition illustrée de votre roman Vie de David Hockney le 3 avril prochain chez le même éditeur. L'exposition David Hockney 25 aura lieu du 9 avril au 31 août à la Fondation Louis Vuitton à Paris. Catherine Cusset, vous serez en dédicace le 13 avril de 11h à 12h sur le stand de Gallimard au Festival du Livre de Paris qui aura lieu au Grand Palais. Événement précédé de quelques rencontres. Le 2 avril à la librairie Michel Ignazy à Paris. Le 5 avril à la librairie Villeneuve à Clichy. Le 9 à la librairie Les Mots et les Choses à Boulogne-Billancourt. Et à Rouen le 29 avril à la librairie L'Armitière. Cette émission a été réalisée par Lola Costa Santini, préparé par Céline Villegas, Etel Alzial et Franck Olivar. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Benjamin Wagon. À demain, 20h10.